J'ai besoin de me plonger dans la parole de Dieu, de découvrir ce qu'elle dit. Puis j'ai besoin de la méditer, de réfléchir sur ce qu'elle dit. Cela éclaire mon cœur. La foi naît, la lumière vient. Alors la chose la plus naturelle du monde est d'agir en conséquence. Cela conduit à la pratique, ce qui en résulte, c'est la manifestation. Dieu fait sa part. Mes amis, ayez une relation d'amour avec votre Bible.
Bonjour, je suis Bill Esconley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Bonjour, je m'appelle Bayless Conley et j'ai des choses à partager avec vous. Je vous encourage à prendre quelques minutes pour vous asseoir avec moi. Si vous avez une Bible, prenez-la ou utilisez votre support électronique s'il possède une app de la Bible. Nous allons étudier les Écritures ensemble. Le sujet de cette série d'études est vraiment captivant. Nous avons sondé l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons approfondi le sujet de la guérison. La Bible est remplie dans l'Ancien et le Nouveau Testament de passages où Dieu a guéri des gens et où l'on enseigne la guérison divine. Jésus lui-même, qui disait « Celui qui m'a vu a vu le Père », a passé une grande partie de son ministère terrestre à guérir les malades. En fait, il semble, en lisant les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que Jésus venait toujours de guérir quelqu'un, était en train de guérir quelqu'un, ou allait guérir quelqu'un. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer si vous gardez l'esprit ouvert. À la vérité, c'en est rempli. Nous arrivons au livre des Actes, l'Église est née. Et la guérison est un élément important de l'Église. Et jusqu'au dernier chapitre du livre des Actes, des guérisons ont lieu. C'est donc un sujet important, surtout si vous ou l'un de vos proches, si quelqu'un que vous connaissez, est malade. Je tiens à vous encourager, Dieu continue de guérir. Il est Seigneur et il ne change pas. L'Écriture dit dans Romains 10:17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Vous savez, en général, la plupart des chrétiens entendent très très peu d'enseignements sur le sujet de la guérison. Je suis étonné que nous obtenions autant de résultats alors que ce sujet n'est que très peu prêché. En revanche, nous entendons beaucoup de prédications sur le thème du salut. Il est question du pardon des péchés, de la miséricorde et de la grâce de Dieu qui pardonne aux pécheurs, le purifie et le fait entrer dans sa famille. Jésus, qui n'a pas connu le péché, a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ, et que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Dieu est ouvert à tous ceux qui l'invoquent. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été envoyé, afin de détruire les œuvres du diable. Les gens disent « Le péché est l'œuvre du diable », et je suis d'accord avec cela. Mais nous entendons tellement de messages prêchés sur ce thème, même lorsque nous traitons un autre sujet. Je veux prêcher sur le mariage, l'éducation des enfants, ou la gestion de l'argent selon les Écritures, mais lorsque j'arrive à la fin du message, j'enchaîne toujours d'une manière ou d'une autre avec un appel au salut et je donne aux gens l'occasion de recevoir Christ. Alors même quand il s'agit d'un message sur le mariage ou l'argent, du moins dans notre Église, les gens entendent quand même des versets sur le salut, la bonté de Dieu et sa volonté de pardonner. Dieu veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, etc. La plupart des gens, dans la plupart des églises, chaque semaine, ou deux fois par semaine, ou quand ils y vont, entendent des messages sur le pardon. Ils entendent des messages sur le salut, la volonté de Dieu de restaurer les gens et de laver leurs péchés s'ils se repentent et viennent à lui. Merci à Dieu pour cela. C'est pourquoi la foi des gens est forte dans ce domaine, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais ajouter quelque chose. Si nous entendions sur la guérison ne serait-ce que la moitié des enseignements entendus sur le pardon des péchés, nous verrions beaucoup plus de guérison se manifester dans la vie des gens. La raison pour laquelle la foi des gens est si faible dans ce domaine, et l'une des raisons pour lesquelles nous voyons si peu de guérison, c'est qu'il y a si peu de prédication à ce sujet. Si nous prêchons sur la guérison, la foi viendra pour la guérison. La foi peut vous mener à la guérison, mais vous devez entendre la parole à ce sujet. C'est donc ce que nous faisons dans ces sessions. Nous étudions les questions qui sont posées dans les Écritures, par des personnes, parfois par Dieu, et parfois par le simple contexte du verset, qui sont liées à la guérison. Nous allons examiner l'une d'elles tout de suite. Elle est tirée de l'Évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 2. Jean, le Baptiste, a été arrêté et mis en prison. Il est écrit : Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander : Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? C'est une question que Jean a posée à Jésus. Vous allez dire : Quel rapport avec la guérison ? Lisons la suite. Jésus répondit aux deux disciples venus poser la question de Jean : Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre ? Es-tu le Fils de Dieu qui a été annoncé ? Es-tu le Messie ? Es-tu le Sauveur d'Israël ? Es-tu le Sauveur du monde ? Est-ce toi ou devons-nous chercher quelqu'un d'autre ? Versets 4 à 6, Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Jésus a dit : Voici la réponse à Jean. Vous voulez la preuve que je suis celui qui doit venir, le Messie, le Sauveur, celui que les prophètes ont annoncé, que je suis le Fils de Dieu. Alors voilà, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Les guérisons sont la preuve que je suis le Fils de Dieu. Ce sont des signes qui pointent vers moi et la réalité de mon appel, vers qui je suis et d'où je viens. Je pense que certains se disent encore : Devons-nous en chercher un autre ? Quelle est la différence entre le christianisme et telle ou telle religion ? Bon, je choisis celle-ci, ils pensent : Beaucoup de chemins mènent à Dieu. Mais vous savez quoi ? La guérison devrait faire partie intégrante de l'Évangile. Jésus est toujours celui qui guérit. Hébreux 13:8 dit : Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. En tant que croyants, nous avons reçu l'ordre d'imposer les mains aux malades. Je pense vraiment que beaucoup de gens dans le monde se posent intérieurement la question : Bon, d'accord, il y a le christianisme, mais devrais-je chercher autre chose ? Eh bien, s'ils voyaient les signes, les prodiges et les guérisons, si ces choses se produisaient parmi nous, ce seraient les signes qui conduiraient beaucoup de gens à Jésus. Oui, c'est certain, nous devons prêcher l'Évangile. Mais si vous lisez les Actes, Paul dit : J'ai prêché partout l'Évangile avec des signes et des prodiges. La guérison fait partie de l'Évangile de Christ. Je pense que les prédicateurs devraient oser prêcher à ce sujet. Nous ne sommes pas responsables des résultats. Cela incombe à Dieu. C'est lui qui guérit. Notre rôle est de la proclamer. Nous devrions proclamer la guérison avec autant d'entrain et d'audace que nous prêchons le pardon des péchés. Si nous la prêchons, la foi naîtra dans le cœur des gens pour la recevoir. Prêchez-la et des gens comme l'infirme de Lystre pourront l'entendre et avoir la foi pour être guéri. Prêchez-la pour que des gens comme la femme, avec la perte de sang qui dans la foule a touché le bord de l'habit de Jésus, il a dit : Ma fille, ta foi t'a guéri. D'où vient la foi ? Elle vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La femme a dû entendre parler de Jésus. En entrant dans la synagogue, Jésus a prêché : L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la guérison, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien sûr, cette femme avait eu vent de cela d'une manière ou d'une autre. Parlons de la fin du dernier livre de l'Ancien Testament. Le livre de Malachie parle du Messie à venir. L'une de ses appellations, l'un des noms du Messie, le Sauveur à venir, se trouve dans ce passage de l'Écriture : Le soleil de justice, le Messie, se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. C'est un langage très poétique. En fait, le mot « elle » en hébreu est aussi traduit par « le bord d'un vêtement » de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que les gens le lisent. Le soleil de justice se lèvera avec la guérison au bord de son vêtement. Donc, que fait la femme ? Elle s'approche dans la foule, toute faible, à quatre pattes, et touche le bord de son vêtement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Elle avait foi en sa promesse. Elle connaissait bien sûr la promesse du Messie et la parole de Dieu qui disait, « Le soleil de justice, le Messie, quand il viendra, aura la guérison au bord de son vêtement. » Elle saisit le bord du vêtement par la foi et il dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Revenons à Jean. Il est dans une prison obscure. Il a déjà annoncé que Jésus était le Fils de Dieu et celui qu'il fallait suivre. Dieu l'avait révélé à Jean. Mais à présent, dans l'obscurité de sa prison, il commence à douter. Alors il envoie ses messagers pour demander « Es-tu celui qui vient ?» ou « Devons-nous continuer à chercher ?» Et Jésus dit « Bon, voici la preuve que c'est moi, des guérisons, des miracles. » Mes amis, rien n'a changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Pour ma part, je crois en un évangile ponctué de surnaturel, ponctué de guérisons et de miracles. Pour ma part, je vais le prêcher avec audace et laisser Dieu faire son œuvre. Je viens à une autre question. C'est la dernière de notre série. Luc 17, 12 à 19 dit, « Comme il entrait dans un village, on parle de Jésus, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Les questions de Jésus, les dix n'ont-ils pas été guéris ? Bien sûr que oui. Et les neuf autres, où sont-ils ? Le seul revenu rendre gloire à Dieu, c'est cet étranger. Il n'était même pas juif. Il y a dans cette histoire des détails qui me paraissent importants. Quand les dix lépreux se sont écriés « Jésus, Maître, aie pitié de nous », ils imploraient bien sûr la guérison et Jésus l'a compris. La guérison, c'est un acte de pitié, de miséricorde. Il est notre grand prêtre miséricordieux et compatissant. Les compassions du Seigneur se renouvellent chaque matin. Dieu est toujours plein de miséricorde et de compassion. Il ne change pas. La miséricorde de la guérison est toujours disponible aujourd'hui. Ils ont donc fait appel à la miséricorde de Jésus pour être guéris. Il leur a dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Intéressant. Ils devaient en fait y aller par la foi. Dans l'Ancienne Alliance, il est dit que si un lépreux, quelqu'un qui a la lèpre, était guéri, une fois guéri, il devait aller voir le prêtre. Le prêtre l'examinait et, s'il était vraiment guéri, un certain sacrifice devait être fait. Un sacrifice qui évoquait Christ, d'ailleurs, et montrait que la guérison fait partie de son œuvre rédemptrice. Ce n'était pas juste une image pour le péché. Il s'agissait, littéralement, de guérison physique. Ainsi, la personne qui avait eu la lèpre offrait des sacrifices et elle pouvait revenir et être intégrée ou réintégrer dans la société. Jésus leur dit donc de partir. C'est intéressant, l'Écriture dit qu'ils ont été guéris alors qu'ils marchaient. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils voyaient qu'ils guérissaient. Ils n'ont pas guéri tout de suite. Ils auraient pu dire, « Seigneur, tu sais que nous devons d'abord être guéris. Cette lèpre défigure. Nous sommes affreux. Je peux le voir, il peut me voir. Nous voyons bien que nous ne sommes pas guéris. Pourquoi aller voir le prêtre ? Guéris-nous d'abord, tu n'as pas compris notre question. » Jésus leur a dit d'y aller par la foi. Car quand ils se sont mis en route, il n'y avait aucune preuve physique qu'ils avaient été guéris. Il est dit que pendant qu'ils allaient, ils ont été purifiés. Pendant qu'ils allaient, c'est-à-dire que quand Jésus a dit « Allez », ils n'étaient pas encore purs, du moins cela ne s'était pas produit physiquement. Cela ne s'était pas manifesté dans leur corps. Ils devaient y aller par la foi. D'accord ? Jésus, je te prends au mot, je me lance et j'y vais. Mes amis, la foi, c'est se lancer sur la parole de Christ, au-dessus du vide angoissant, sans rien d'autre sous vos pieds que sa parole, sa promesse et ce qu'il a déclaré. Sa parole vous soutiendra. Je me souviens avoir lu l'histoire d'un homme qui avait déménagé dans l'est des États-Unis, où les hivers sont très rigoureux. Il venait du sud et n'était pas habitué à tant de neige, de glace, de grésil, etc. Il s'est rendu à un lac de la région un jour en plein hiver, disons fin février. Le lac est gelé et il se dit « Je me demande si cette glace va me soutenir ». Il avance timidement et commence à se tenir sur la glace. Il avance un peu plus, met son pied sur la glace. Il continue en essayant d'être léger comme une plume. Tout à coup, il entend un grondement et des branches qui craquent. Il regarde et aperçoit une vieille route enneigée sur laquelle descend un camion à plateforme. Il y a un plein chargement de bois de chauffage à l'arrière. Il y a plus d'une tonne de bois de chauffage à l'arrière de ce camion. Il descend la route enneigée et roule sur le lac gelé. Il traverse le lac gelé, monte sur une route de l'autre côté et disparaît. Des milliers de kilos. Le gars se dit, je m'efforce d'être aussi léger qu'une plume, mais cette glace va porter mon poids, c'est évident. Mes amis, ne vous tenez pas timidement sur la parole de Dieu. Elle vous soutiendra. Ils partirent et ils furent purifiés pendant qu'ils allaient. L'un d'eux s'aperçut soudain qu'il était guéri et il revint. D'une voix forte, il glorifia Dieu, tomba sur sa face et rendit grâce à Jésus. C'était un Samaritain. Il n'était pas juif et faisait partie du peuple que les Juifs considéraient comme des métis. Il s'agissait de Juifs qui s'étaient mariés avec les tribus cananéennes et les habitants du pays. Ils vivaient à l'écart des Juifs de race pure, et certains Juifs méprisaient vraiment les communautés samaritaines. Mais Jésus pose la question, les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Oui, bien sûr. Il demande, et les 9 autres, où sont-ils ? Un seul est revenu pour rendre grâce et gloire à Dieu. Je me demande si le pourcentage est le même de nos jours pour ceux qui reçoivent une bénédiction, une guérison, une restauration de la part du Seigneur. Est-ce qu'ils s'en vont de leur côté ou est-ce qu'ils rendent grâce à Dieu? Louer Dieu est si important. Le remercier pour ce qu'il a fait est si important. Nous ne devrions pas considérer les bienfaits de Dieu comme allant de soi. Puissions-nous être comme le lépreux qui est tombé sur sa face et qui, d'une voix forte, a rendu gloire à Dieu et a remercié Jésus. Si vous êtes en bonne santé, remerciez Dieu chaque jour pour cela. Et cela ne vous fera pas de mal de le faire à haute voix. Autre chose que je trouve intéressant, il est dit que les 10 lépreux ont été purifiés. Merci à Dieu pour cela. C'est merveilleux. Mais si une personne avait la lèpre, rongeait les doigts, elle pouvait ronger aussi le bout du nez. C'était laid, c'était contagieux. Certains n'avaient plus que des moignons en guise de main dans les stades avancés de la maladie. C'était une terrible maladie. Donc ils étaient purifiés, mais ils pouvaient avoir perdu des doigts, une oreille ou autre chose. Mais ils ont été purifiés. Ils n'ont plus la maladie. Merveilleux! Ils peuvent réintégrer la société. Je préférerais me réinsérer dans la société et être avec ma famille, même si je n'ai que 4 doigts, plutôt que de devoir en être séparé. Ils sont donc purifiés, ils n'ont plus la lèpre. Mais quelque chose de plus s'est passé pour celui qui est revenu rendre grâce. Jésus lui a dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » D'autres traductions disent, « Ta foi t'a guéri, elle t'a renouvelé. » L'Écriture laisse entendre que cet homme n'a pas seulement été purifié, mais qu'il a été renouvelé. S'il avait perdu un bout de son oreille, de son nez, d'un doigt, ou quoi que ce soit d'autre, il n'a pas seulement été purifié, il a été renouvelé. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très puissant dans le fait de rendre grâce à Dieu. Il est vraiment digne de nos remerciements. Il est vraiment digne de nos louanges. Je pourrais m'asseoir et dresser une très longue liste de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Alors que je suis assis sur ce siège en train de vous parler, je n'ai aucune douleur dans mon corps. J'en suis très reconnaissant. Mes jambes fonctionnent, mes mains fonctionnent, mon cerveau fonctionne, mes poumons fonctionnent, mon cœur bat, ma femme, je l'ai embrassée en partant. Nous étions dans la cuisine, je l'ai embrassée et je lui ai dit que je la verrai plus tard dans la journée. Ma femme est en bonne santé, elle est saine d'esprit. Tous nos enfants sont en bonne santé, nos petits-enfants sont en bonne santé. J'ai tant de raisons d'être reconnaissant. J'ai mangé quelque chose avant de venir faire cette vidéo. Je suis tellement reconnaissant d'avoir de la nourriture à mettre sur ma table. J'ai une bonne tasse de thé devant moi, j'aime le thé. Vous savez quoi? Dieu merci, j'ai un sachet de thé et je peux me faire une tasse de thé. Tout le monde ne le peut pas. Il y a des gens en situation précaire dans ce monde et avoir une tasse de thé serait un grand luxe pour eux. Quand je vais partir d'ici, j'aurai un véhicule à conduire. Je pourrais continuer sans fin, mais permettez-moi de vous encourager. Dans cette série, nous avons regardé à Jésus, celui qui guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait en marchant sur les rives de Galilée et ce qu'il a fait dans les villages d'Israël, il le fera aujourd'hui, il le fera pour vous. Nous devons apprendre à le prendre au mot. Dieu est honoré quand on croit en sa parole. Si vous la gardiez dans votre cœur, cela pourrait aider certains d'entre vous. Certains disent, « Pasteur, j'ai tellement de mal à avoir la foi. » Ce n'est pas dur d'avoir la foi. Vous n'avez pas un problème de foi, mais un problème avec la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ne vous efforcez pas d'avoir la foi. Croire, ce n'est pas dire, « Oh, je veux croire en Dieu, j'essaie d'y croire, ça ne marche pas, mais j'essaie !» Ce n'est pas avoir la foi naît spontanément, quand la parole de Dieu demeure dans votre cœur. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Avoir la foi dans la prière, avoir la foi dans les promesses, vient du fait que ces promesses habitent dans notre cœur. La foi vient spontanément quand la parole habite dans notre cœur. Tout comme l'humidité vient avec l'eau. Vous ne dites pas, « Puis-je avoir un verre d'eau et de l'humidité avec ?» Non, l'humidité vient avec l'eau. On n'y pense même pas. Vous ne devriez jamais vous efforcer d'avoir la foi. Il suffit de se plonger dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Quand Josué a succédé à Moïse, le Seigneur lui a donné ses instructions. Que ma parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Médite-la jour et nuit. Cela veut dire y réfléchir, y penser. Cela implique de l'approfondir sans cesse. De ne pas y jeter un coup d'œil rapide, mais même de la proclamer à haute voix. Les versets que j'ai partagés dans cette série d'études et les versets de ce jour, je vous encourage à les lire et à les relire, puis relisez-les à nouveau. Et lisez-les à haute voix, puis lisez-les un verset à la fois, dites-le à haute voix et réfléchissez-y. De nos jours, l'une des plus grandes tragédies de l'Église, c'est la théologie non assimilée. La parole n'est jamais passée de la tête au cœur des gens. Quand il s'agit du sujet si important de la guérison, la parole de Dieu doit passer de notre tête à notre cœur. Comment faire cela? En méditant. On commence par l'information. Puis vient la méditation, puis vient la révélation, puis vient la pratique, puis vient la manifestation. L'information, je dois me plonger dans la parole de Dieu, découvrir ce qu'elle dit. Puis je dois la méditer, y réfléchir, cela éclaire mon cœur. La foi naît, la lumière vient. Ensuite, la chose la plus naturelle au monde est d'agir en conséquence. Cela amène la pratique et le résultat est la manifestation. Dieu fait sa part. Mes amis, ayez une relation d'amour avec votre Bible. Elle changera votre vie. Elle changera votre vision. Elle peut changer votre famille. Elle peut tout changer. Le temps est presque écoulé, je veux juste vous dire, même si personne ne vous l'a jamais dit dans votre vie, je veux juste vous dire, vous êtes aimé. Oui, vous avez bien entendu, vous êtes aimé, Dieu vous aime. Même si on ne s'est jamais rencontré, je vais dire, je vous aime. Si je le pouvais, je viendrais dans votre cuisine partager une tasse de thé et parler des Écritures. Vous poseriez des questions, j'en poserai aussi. On pourrait peut-être prier ensemble. J'en serais ravi. La vidéo est le second meilleur choix. Mais vous savez quoi? Vous êtes aimé. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Dieu a prévu des choses pour vous. Il a prévu de bonnes choses. Vous avez juste besoin de savoir que vous êtes aimé, mes amis. D'ailleurs, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Si cette série vous a béni, envoyez-nous un courriel. Si vos prières et vos finances nous soutiennent, nous pourrons diffuser ces programmes à des gens dans le monde entier. À présent, nos vidéos ont un doublage en de nombreuses langues et nous les diffusons sur les réseaux du monde entier pour que les gens puissent entendre ce que vous entendez. Et on ne peut le faire qu'avec des partenariats. Donc si Dieu vous a conduit à aider, nous en serions bénis et vous aussi. Je crois. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. D'ici là, que Dieu vous bénisse.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.